c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Gratfouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Vous trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Canu, il est l'heure du Canu Info, nous sommes jeudi, et ce soir petit Canu Info, et oui, ça arrive de temps en temps. Nous aurons une chronique au diable Dieu, assez importante, nous parlerons de promotion ce soir, le yaourt à 192 millions d'euros, pas cher, c'est à saisir. Nous parlons de pommes. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Et puis, on parlera nucléaire aussi.
Ouais, c'est, oui, 4 ans.
4 ans. Et oui, mais d'abord, tu vas, Laurent, ouvrir ce Canu Info.
Oui, en rappelant que le travail tue, et pas simplement les riches sportifs français qui montent dans des hélicoptères pour faire vendre leur corps, leur esprit, leur image à de la télé-réalité dont le but est de libérer du temps de cerveau disponible et d'asservir les populations. Non, le travail tue aussi au Bangladesh, puisque nous avons une nouvelle catastrophe dans un immeuble en construction cette fois-ci, où une partie du toit de l'immeuble qui est en construction s'est écroulé, tuant 5 ouvriers. Il en manque encore une dizaine, donc ils sont peut-être sous les gravats, et il y a eu 6 personnes gravement blessées. Tout ça pour rappeler que c'est pas la première fois que ça arrive. Hein, au Bangladesh, il y a le tristement célèbre immeuble le Rana Plaza, hein, en avril 2013, dans la banlieue de Dhaka, la capitale, dans laquelle 1138 personnes ont trouvé la mort, donc travailleurs et travailleuses, assassinés par leur patron, par leurs commanditaires, hein, qui connaissaient très bien les conditions de travail, dont certains ont fait mea culpa ensuite, hein, les multinationales françaises bien connues, Carrefour, Auchan, tout ça, et d'autres, c'est les mêmes, qui n'ont pas fait leur mea culpa. Je vous laisserai choisir laquelle n'a pas fait son mea culpa et laquelle a fait son mea culpa. Voilà, pour rappeler qu'effectivement, le travail tue de différentes manières. 3000 morts par an chaque année dues à l'amiante en France. Donc, par les choix des patrons d'utiliser cette matière qui était reconnue dangereuse et mortelle depuis 1930. Il y a de moult exemples, le bâtiment continue tous les jours ou toutes les semaines en France. Voilà, rappelons-nous tout simplement ça, c'est pas parce qu'on glorifie ou qu'on fait semblant d'être ému de la mort de gens célèbres que des gens non célèbres ne meurent pas tous les jours. Et c'est bien évidemment à eux qu'iront notre pensée aujourd'hui dans ce Canu Info. Et après cette triste nouvelle, nous allons faire notre rubrique au diable Dieu, donc qui parle des religions et du lien qu'il peut y avoir entre les religions et nous et vous et le monde. On va commencer par parler d'Avijit Roy, Alors Vigitroy, j'avais pas percuté, il a été assassiné la semaine dernière, on était le 27 février à Dhaka, il était donc dans la capitale du Bangladesh. Ah, on est resté au Bangladesh, tiens. Il a été attaqué, lui et sa femme, à coups de machette. C'était un acte relativement barbare. Alors j'avais raté l'information, je sais pas pourquoi, mais dans le Charlie Hebdo de cette semaine, il y a la rubrique sur les mécréants, et ils ont remis ça en avant. Et il y a une nouvelle info qui est tombée ces jours-ci au sujet de cet assassinat, puisque la police du Bangladesh, donc très exactement les forces d'élite du Rapid Action Battalion, le RAB, ont arrêté le principal suspect qui serait donc Farabi Shafiur Rahman. Alors, le lien dans la rubrique au diable Dieu, eh ben, il est évident, puisque ce blogueur Avijit Roy, donc bangladais, exilé aux États-Unis depuis une quinzaine d'années, puisque c'était plus possible pour lui de vivre au Bangladesh, il n'aurait pas dû y retourner, du coup, pour quelques jours. Il est fondateur d'un blog qui s'appelle Mukto Mona, ça veut dire libre pensée. Et oui, c'est un athée qui est accusé dans son pays par certains musulmans d'être ce que les gens qualifient en France d'islamophobe, c'est-à-dire contre l'islam. Ben, effectivement, en tant qu'athée, il se mobilise contre la religion, il voudrait que le pays se sécularise, hein, comme c'est le cas dans les pays occidentaux, une partie des pays occidentaux en tout cas, et que le droit à l'athéisme existe. Bon, a priori, c'est pas gagné, puisque le principal suspect, Farabi Shafiur Rahman, est un islamiste. C'est pas la première fois, il a déjà été arrêté pour le meurtre d'un autre blogueur qui militait pour l'athéisme, Ahmed Rajib Haider. C'était en février 2013, il n'y a pas eu le procès encore, il a été remis en liberté sous caution. Alors, les indices de la police, c'est pas sûr que ce soit lui, hein, mais il y a des indices. Bon, ils le connaissent. Il avait déjà menacé Avijit de différentes manières, avec numériquement, avec Twitter, Facebook. Et puis ils ont ces forces d'élite du Rapid Action Battalion récupéré des conversations téléphoniques entre lui et certains de ses amis, où il parle justement un peu trop de l'assassinat du blogueur du site de la Libre Pensée, donc ce qui laisse entendre qu'effectivement il aurait participé, voire il aurait assassiné ce blogueur. On en saura plus dans les semaines ou dans les mois qui viennent. En tout cas, c'est pour rappeler que au Bangladesh, être athée, c'est risqué, être écrivain, c'est risqué, être journaliste, c'est risqué, puisqu'il y a moult assassinats régulièrement, hein. Deux blogueurs en 2 ans, quatre écrivains, je crois, en 10 ans, c'est quand même pas bon signe, et c'est pas facile, je pense, pour vivre au Bangladesh quand on n'est pas dans la norme bangladaise. Bon, ben ouais, du Bangladesh quoi. On décale, on va au Bahreïn. Alors, c'est ce qui nous montre un peu l'imbécilité de l'intégrisme religieux, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, puisque ça marche pour plein de religions. Là, c'est à travers le Bahreïn, donc autour de l'islam. C'est en fait un étudiant et deux de ses professeurs qui ont mis en musique des versets du Coran. Donc, il y en a qui chantent et il y a deux instrumentistes dans des versions pas blasphématoires, hein, pas du tout. Hein, c'est un truc respectueux. Enfin, pour eux, ça leur semblait naturel, puisque dans l'islam, on a le droit de psalmodier, donc c'est presque du chant en fait, hein, quand on entend les psalmodies du Coran, mais pas tout à fait non plus. Et ben, il y a un procureur, le procureur général de Bahreïn, qui les a arrêtés et qui les poursuit pour blasphème, parce que c'est interdit, d'après lui, dans cette vision très étroite, très restrictive, très traditionnaliste, très réactionnaire de l'islam, de mettre en musique le Coran. C'est quand même pas gagné, même quand on n'est pas anti-religieux, quand on fait quelque chose et qui est en lien avec la religion, on prend quand même des risques dans certains pays. Alors on va revenir en France avec deux petites infos en lien aussi avec la liberté de penser et la liberté de conscience. Alors c'est au sujet, vous savez, vous avez peut-être entendu parler, puisque ça a été approuvé hier, du coup on va en parler un petit peu à l'Assemblée nationale, le fameux article sur l'euthanasie. Pas l'euthanasie, ils ont changé le nom, ça s'appelle une sédation profonde et continue. Alors, Malheureusement, on n'est quand même pas tout à fait dans l'euthanasie. Hein, la France reste un pays assez réactionnaire encore là-dessus, pour des questions religieuses, d'ailleurs on en parlera tout à l'heure. Mais c'est quand même un progrès que cette proposition de loi faite par deux députés, un UMP et un PS, qui se pose la question de la fin de vie des malades en phase terminale lorsqu'il n'a plus rien à faire. Alors c'est précisé, hein, lorsqu'ils sont atteints d'une affection grave et incurable. Donc cette fameuse sédation, c'est-à-dire ils sont endormis, cette sédation pourra être décidée donc par l'équipe médicale lorsque la souffrance du malade dont le pronostic vital est engagé à court terme, c'est pour ça que c'est très très limité quand même, ne peut être apaisée par des traitements analgésiques traditionnels. Elle pourra aussi être mise en œuvre lorsque le patient décide, comme la législation d'ailleurs actuelle lui donne déjà le droit, d'arrêter tout traitement pour pas rentrer dans un acharnement thérapeutique. On a le droit de choisir de faire arrêter les traitements. L'Assemblée nationale a aussi accepté de donner un caractère contraignant aux directives anticipées. Alors, directive anticipée, je vous rappelle, c'est que vous pouvez dire à l'avance que vous ne voulez pas d'acharnement thérapeutique, vous voulez, alors là maintenant vous pourrez dire un accompagnement, une sédation si le cas se présente, et le nouveau texte rappelle que ces directives, elles s'imposent aux médecins, hein, quoi qu'il arrive. Si ça correspond bien à ce qui a été décrit dans les directives. Donc on pourra se prononcer en avance. Et c'est pas la famille qui aura le dernier mot, comme ça arrive quelquefois. C'est bien la personne qui est concernée, qui peut prendre la décision avant d'être dans ce cas critique. Voilà. Alors, c'est donc une loi qui est relativement progressiste, hein, qui va dans le bon sens, même si on est encore à des kilomètres de ce qui peut se faire dans certains pays. Le texte définitif sera voté par un vote solennel, hein, mardi prochain. Et ensuite, le Sénat, etc. Vous connaissez la vie des lois et des parlements du Sénat. Mais, bien évidemment, ça n'a pas plu aux religions. Alors, nous avons eu une tribune lundi dernier dans le journal Le Monde où cinq représentants des trois grosses, grandes, importantes religions monothéistes présentes en France ont uni leur voix pour montrer leur opposition contre ce texte. Alors que, je le rappelle, sans ces religions-là, le texte serait sûrement allé plus loin encore. Là, on a encore en France une pression religieuse réactionnaire très très forte. Eh ben, ça n'empêche pas que malgré la faible avancée du texte, Philippe Barbarin, cardinal archevêque réactionnaire de Lyon, François Claveroli, président de la Fédération protestante de France et ultra-réactionnaire aussi, Monseigneur Emmanuel, alors métropolite de France, métropolite, c'est président de l'Assemblée des évêques orthodoxes, hein, qui lui aussi est pas du tout un progressiste. Ne parlons pas d'Aïm Corsia, lui qui est grand rabbin de France, et de Mohamed Moussaoui, président de l'Union des mosquées de France et président d'honneur du Conseil français du culte musulman. Donc tous, les cinq, main dans la main, ils sont allés dire qu'ils étaient contre ce texte-là. Pourtant, ils avaient fait pression tout au long, hein, du parcours, hein, et de la préparation du texte. Mais voilà, et donc ils ont rappelé que c'était mal de donner la mort. C'est intéressant d'entendre ça de la part de religions qui ont massacré des centaines, des milliers de personnes, même si Philippe Barbarin n'est pas un criminel lui-même, bien évidemment. Quoique, quand on n'impose pas, on ne véhicule pas un message de protection sur les maladies sexuellement transmissibles avec l'utilisation du préservatif, quelque part on a quand même une part de responsabilité dans les personnes qui suivent les directives et qui tombent malades. Hein, ça, c'est difficile d'y échapper. Malheureusement, ils ne sont pas poursuivables, ces gens-là. Mais ils ont quand même, malheureusement, une grande responsabilité. On le rappelle, notamment de l'impact du pape, que peut avoir le pape en Afrique, et de sa responsabilité dans les millions de morts liés au virus du SIDA. C'est le seul à être responsable, bien évidemment. Donc, ils ont essayé de s'unir. Alors, pour notre plus grand bonheur, leur impact n'a pas été si important que ça, puisque la loi va passer, hein, a priori, de ce qui s'annonce. Mais ça nous rappelle que le jour où ces cinq religions, alors ils n'ont pas interrogé les bouddhistes, mais les bouddhistes sont pas mieux, eh ben on sera tous morts, hein, parce que les bouddhistes ont la même vision de la femme que ces cinq religions. Les bouddhistes ont. Tu voulais dire quelque chose? Les bouddhistes ont la même vision réactionnaire de plein de choses. Et ben effectivement, la crainte qu'on pourrait avoir, c'est qu'un jour, ces religions se mettent ensemble et qu'on ait l'apparition de partis religieux ou de groupes de pression religieux œcuméniques, hein, parce que quelque part c'est ça. Et là, on sera dans une grande difficulté, ce qui a toujours permis pour l'instant aux lois de s'émanciper de plus en plus de la religion, c'est le fait qu'elle marchaient en ordre dispersé. On a vu qu'elles ont fait ça pour contre le mariage pour tous. Elles n'y sont pas arrivées encore. Pour l'instant, on croise les doigts. La France reste relativement étranger aux pressions religieuses. Quoique. Par contre, les élus, beaucoup moins, malheureusement. Alors on reste en France avec un truc assez bizarre que j'avoue ne pas avoir compris totalement, puisque on va parler de prison. Alors on entend parler souvent des aumôniers en prison, que ce soit des aumôniers chrétiens et des aumôniers musulmans. Il y a d'autres religions, hein. Pour info, si vous n'avez pas idée du nombre de religions dans le monde, officiellement il y aura à peu près 10 000 religions dans le monde, c'est quand même beaucoup, et 34 000 groupements confessionnels voire sectaires. L'info, c'est que la France, c'est-à-dire l'État français, a été condamné le 5 mars dernier, c'est le tribunal de Limoges, à verser 3 000 euros à un détenu du centre pénitentiaire de Châteauroux qui était témoin de Jéhovah et qui estimait avoir été empêché par ses conditions de détention de pratiquer son culte librement. Donc le détenu témoin de Jéhovah avait assigné l'État, estimant qu'il n'avait pas pu être mis en présence d'un aumônier représentant son culte, qui lui avait même été interdit de se rendre au parloir avec des ouvrages et publications religieuses, puisqu'au parloir il avait quand même pu, et ça n'a pas été retenu, rencontrer un ami qui est ministre du culte, sauf que officiellement pour l'institution pénitentiaire, cette personne a été reçue, a été visiteur en tant qu'ami et non pas en tant que ministre du culte, donc il a pu faire aboutir sa plainte, et sa plainte a permis de condamner l'État à 3000 euros de dommages et intérêts. Ce qui pose problème, et ce qui pose question, c'est que si ça fait jurisprudence, toutes les personnes qui ont une religion vont pouvoir faire pression sur l'État, faire cette demande-là, et si, parce qu'il y a des religions quand même bizarroïdes, hein, alors ça va être quoi? Une discrimination avec seules les religions reconnues? Et alors, va trouver, parce qu'il y a quand même des religions reconnues assez rares en France, on va trouver quelqu'un pour venir dans toutes les prisons françaises, et une religion non reconnue. Pourquoi eux, la religion non officielle en France, par exemple les djihadistes, ceux qui sont fans du Jedi, là, ils n'auraient pas le droit d'avoir leur aumônier? Du coup, c'est quand même la porte ouverte à un peu tout et n'importe quoi. Alors, bien évidemment, le tribunal se défend en disant, ben oui, mais dans la loi française, l'État, chaque détenu doit satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. Et il paraît, la Convention européenne des droits de l'homme qui dit aussi que la liberté de manifester sa religion ne peut faire l'objet d'aucune restriction. C'est intéressant qu'il y ait ça dans la Convention européenne des droits de l'homme, parce qu'on a l'impression que dans ce genre d'instance, en ce moment, les religions sont plus protégées que ceux qui sont contre les religions. Est-ce que quelqu'un qui serait athée aurait le droit de faire venir des gens de la libre pensée en prison pour dialoguer avec eux de sa libre pensée, puisque c'est un choix moral et anti-religieux, mais c'est sur le même pied qu'un choix religieux, l'anti-religion, la non-croyance, le rationalisme, hein, on appelle ça comme on veut. Du coup, cette décision, elle est quand même ambiguë, elle est compliquée, et si elle fait jurisprudence, c'est quand même pas terrible. Bien évidemment, il y a que les détenus aient le droit de pratiquer leur secte ou leur religion, le problème ne se pose pas comme ça. Est-ce qu'il doit y avoir chaque fois un personnel qui les rende visite? On rentre dans un truc à mon avis infernal. Après, on pourra poser peut-être la question de la présence, de l'existence des prisons, ça réglerait peut-être le problème aussi, mais c'est l'émission d'après qui en parle. Donc voilà, je termine avant de te donner la parole pour le même sujet sur l'Arabie Saoudite. Donc c'est un membre fondateur d'une des rares, très rares associations de défense des droits de l'homme en Arabie Saoudite. Déjà, il fallait quand même un certain courage pour monter une association de défense des droits de l'homme en Arabie Saoudite. Il a pris 10 ans de prison le 11 mars dernier, c'est-à-dire hier. Bon, il n'avait pas fait grand-chose, hein. Il dénonçait chaque fois qu'il y avait des... Enfin, c'est pas grand chose. Il dénonçait les abus concernant les droits de l'homme en Arabie Saoudite. Il a donc été condamné à 10 ans de prison, 5 ans ferme et 5 ans avec sursis. Ce qui est plus triste, c'est que le tribunal a bien précisé que le militant, parce qu'il le qualifie de militant, a été jugé sans préavis et sans avocat. Ah, donc tout seul face à une armée de juristes religieux, ça n'a pas dû être facile pour lui. Donc voilà, une petite pensée pour Mohamed Al-Bajadi, qui n'est pas mort, hein, qui est juste en prison. Enfin, juste. On va parler un peu d'Irak maintenant.
Oui, on va parler de Daesh, l'État islamique, et des destructions qu'ils ont menées ces derniers temps. La dernière en date s'est déroulée samedi. Daesh s'est attaqué à Hatra, c'est une cité gigantesque, une cité antique, hein, qui est vieille de 2000 ans, une cité de la Mésopotamie. Alors on n'a pas beaucoup d'infos, on ne sait pas bien ce qui reste. Il y a des témoignages qui indiquent des explosions, des destructions, des pillages. Ça commence tout juste à arriver. Alors il faut savoir que c'était un site qui était toujours en fouille, qui était restauré en partie, un site entretenu. Là, donc, la grande question, c'est de savoir un petit peu, ben, qu'est-ce qui peut bien rester sur place. C'est une cité qui est inscrite depuis 1985 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des biens culturels à valeur universelle. C'est un site vraiment exceptionnel, hein. Daesh a attaqué vraiment aussi un symbole. Alors, c'est une destruction qui intervient après le saccage le jeudi 26 février dernier du musée de Mossoul. Et puis des attaques de la semaine dernière sur le site assyrien de Nimroud. Alors, c'est sur un peu la même région, hein, c'est-à-dire que le site de Hatra, il est à 110 km de Mossoul. Nimroud, c'est entre Mossoul et Hatra, donc c'est sur un territoire sur lequel Daesh est installé. Alors, le truc un peu triste quand même, c'est que certaines des pièces avaient été entreposées et mises à l'abri à Bagdad et au musée de Mossoul, le fameux, réduit en miettes le 26 février dernier. Alors, évidemment, la destruction pour Daesh, c'est d'abord s'attaquer à l'art, au blasphème. C'est la première raison qui est mise évidemment en avant. Il y en a une deuxième qui, elle, n'est pas mise en avant, c'est que le pillage, bah, il est utile, hein, puisque le trafic des œuvres d'art en Irak est évalué à 7 milliards d'euros. C'est une très forte rentrée financière, hein, ces œuvres d'art. Il y a le pétrole, sinon. Donc voilà, le trafic archéologique est très très important. Donc il y a d'abord cette destruction au nom de la religion qui est étalée, utilisée à fin de propagande. Et puis la réalité derrière, c'est qu'aussi il y a les destructions, puis à côté il y a des œuvres qui sont récupérées pour être vendues sur le marché noir. Donc voilà, c'est ça continue parce que c'est des territoires qui sont très riches en patrimoine, et à côté des populations qui souffrent des dévastes, ben voilà, il y a aussi ça qui est en train de se perdre. Les talibans avaient déjà commencé, Daesh continue.
Voilà. Ouais. Après, c'est une histoire des religions d'effacer toutes les traces des religions présentes avant elles. Hein, on se rappelle, on a appris à l'école ce qu'ont fait les chrétiens en France, notamment dans le nord de la France, où ils ont effacé le maximum de traces liées par les religions animistes. Hein, les celtes, toutes ces choses-là, en détruisant le peu de texte qu'il y avait, en détruisant tout ce qui pouvait être en lien avec les religions précédant la religion dominante actuelle. Donc effectivement, là, ils sont aussi dans une phase où ils sont en perte de vitesse, et c'est aussi un moyen de montrer leur force, hein, de faire ça de manière symbolique, puisque si on a les images, c'est quand même que quelque part, il y a des gens qui les balancent, et c'est souvent eux, et c'est aussi montrer bah, qu'ils sont prêts à tout détruire, parce qu'ils savent très bien que détruire l'histoire de l'humanité, c'est un symbole fort. L'histoire des peuples de cette région, c'est un symbole fort. Et c'est aussi, voilà, je pense, quelque chose qu'ils utilisent sur le plan médiatique, et que si ça n'avait aucun impact, ils ne le feraient pas forcément d'ailleurs. Alors, on va parler quand même du yaourt à 192 millions d'euros, là.
Ouais, bah ouais. Alors vous avez raconté, hein,
ouais, t'en avais parlé, ouais,
précédemment, de cette affaire qui tombait sur le coin du nez des fabricants de produits laitiers. Et alors, donc, il y a tout plein d'affaires. Hein. Je ne sais pas si l'autorité de la concurrence a des quotas à remplir avant le mois de juin, là, mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a quand même tout plein d'affaires. Et puis, il y a des amendes, hein, évidemment. Alors, là, donc, c'est les fabricants de produits laitiers qui sont condamnés à des amendes d'un montant total, donc, de 192,7 millions, précisément, oui. Hein, quand même. Poursuivi donc pour entente sur les prix et appel d'offres sur les marques distributeurs. Alors, on va réexpliquer un petit peu. Alors donc, à la base, il y a Yoplait. Yoplait, c'est aujourd'hui une filiale de General Mills. Alors, Yoplait, il faut savoir qu'il y avait un petit carnet tenu, bien rempli. Et ce carnet, il a été remis à l'autorité de la concurrence, qui à la base ignorait tout, hein, tes petits marchandages en arrière, comme on vous le racontait, toujours dans des brasseries de gare ou dans des bistrots un peu perdus, pas forcément dans des hôtels de luxe, hein, comme on pourrait parfois le croire. Donc Yoplait a balancé les autres, donc Yoplait a été exempté d'amende dans le cadre de la fameuse procédure de clémence. Yoplait aurait dû payer plus de 44 millions d'euros, pratiquement 45. Alors, c'est des grosses sommes, hein, quand même. Il y a un groupe qui a ramassé. Mais alors, ramassé, il faut savoir que tout ça, c'est calculé sur ces amendes, hein, c'est calculé sur les chiffres d'affaires. Alors, l'autorité tient compte des difficultés financières de l'entreprise, de la participation à l'enquête. Et puis, s'il y a contestation, ben, on paye plus cher. C'est-à-dire que si jamais on accepte et on conteste pas, on a un petit rabais, hein, tout ça est toujours affaire de négociation. Alors, le groupe qui a ramassé, c'est Lactalis Nestlé, c'est une filiale commune, hein, des deux groupes, Lactalis et Nestlé, qui est spécialisée dans les produits frais. Alors là, c'est 56 millions d'euros, hein. Petite amende, c'est pas mal. On a après, par exemple, Sénagral, c'est connu pour les produits Cénobles. Là, ils ont eu un beau rabais. Hein. Ils sont passés de 101 millions d'euros qu'ils auraient dû payer, le groupe, et à 46 millions d'euros. Jolie baisse de facture, hein, quand même. Voilà, donc on trouve Novandi, c'est les produits Maminova, par exemple. On trouve Maître Laitier du Contentin, Yeofrey. L'Aïta, c'est connu pour la marque Paysan Breton, on trouve Alsace Lait. Tribala, on connaît par exemple les fromages Riant et la laiterie Saint-Malo. Hein, vous regarderez les emballages maintenant quand vous achèterez du yaourt. Vous pouvez retrouver le rapport de l'autorité sur le site. Hein, tout est disponible. Vous verrez, c'est pas juste un communiqué de presse qui annonce les amendes. Il y a un sommaire avec un grand A, un petit 1 et ainsi de suite. Enfin, c'est très très développé. Bon, alors on rigole de ce yaourt à 192 millions d'euros. Reste qu'il y a des salariés qui vont certainement pâtir, hein, de ces amendes, même si on sait que pour des groupes très importants, certaines amendes vont être finalement assez rapidement amorties, hein, dans l'affaire, même si on parle en millions d'euros. Pour d'autres, c'est des sanctions beaucoup plus importantes sur du court ou du moyen terme. Bon, reste qu'on est loin de certaines amendes inférieures. On pourrait vous rappeler, il n'y a pas très longtemps, 605 millions d'euros contre des fabricants de produits d'hygiène. On pourrait vous rappeler en 2012 les Meuniers, hein, pour la farine, 242 millions d'euros, ou encore les fabricants de lessive en 2011 avec 361 millions d'euros. Voilà, toutes ces affaires quand même continue de montrer que on se fiche bien de notre tronche, hein, que tous les produits aujourd'hui sont concernés par ces ententes. Voilà, donc ben oui, effectivement, il faut peut-être aussi nous remettre en question sur la manière dont on consomme, et puis regarder les emballages et regarder qui on achète et quelle marque on achète. Souvent c'est écrit en tout petit, parce que il y a le groupe et puis il y a les 36 000 marques de certains groupes qui en fait sont pas si importants que ça malgré tout.
Alors on va rester dans la consommation, dans la bouffe, et on va parler de la pomme. La pomme, ça doit être un des fruits les plus répandus dans le monde, puisqu'il y en a quand même dans beaucoup, beaucoup de pays. Et par là même, tout le monde va être concerné par ce qui est en train d'arriver aux États-Unis. Alors je vous fais un petit historique. Donc en 2010, l'entreprise Okanagan dépose une demande d'autorisation pour une pomme cisgénique, je vais vous expliquer après ce que c'est, appelée Arctic. Donc c'est une pomme modifiée. Alors ils l'ont déposée au Canada et aux États-Unis. Alors, explication, une pomme cisgénique, ça veut dire quoi? C'est la cisgenèse, c'est comme la transgénèse, hein, c'est-à-dire ramener un gène extérieur à la pomme dans la pomme, hein, c'est le but. Sauf que la transgénèse, on prend un gène de poisson ou de delphine et on le met dans la pomme. Là, alors, je sais pas si le gène de delphine aura un intérêt d'être dans la pomme, du saumon non plus, mais en tout cas, quand c'est la cisgenèse, on prend un gène d'une autre pomme et on l'insère dedans. Voilà ce qu'il est, ce qu'il en est. Donc ça reste dans la même espèce, mais c'est un OGM, bien évidemment, ou quelque chose de génétiquement modifié. Alors, ce qui se passe, c'est que cette pomme, une fois qu'elle aura ce gène, c'est un gène qui va empêcher de brunir. Vous savez, quand on coupe une pomme, eh ben ça brunit. C'est un phénomène naturel. C'est pas très grave, hein. Ça ne change rien au goût et ça ne change rien au bénéfice pour la santé. Mais c'est mal vu par les industriels, hein. Donc, notamment ceux qui vendent du snack et qui veulent faire des pommes découpées qui restent blanches quasiment, là, les trucs, les pommes pas bonnes, là, les golden, les trucs comme ça. Alors, cette entreprise, elle a travaillé sur deux pommes qui avaient au départ des jolis noms, hein, GD743 et GS784, oui, c'est des produits biologiques qu'on manipule. Ils ont bloqué ce fameux gène de l'enzyme polyphénol oxydase, hein, qui est responsable de l'oxydation de la pomme, c'est-à-dire son brunissement. Et voilà, ça a commencé en 2010. Donc en juin 2010, cette entreprise Okanagan dépose une demande d'autorisation au ministère états-unien de l'agriculture pour faire autoriser son marché. Alors, il y a une petite part de propagande. L'entreprise parle de commercialiser ses pommes. Alors, il y a tout plein de choses qui se passent. D'abord, ça va être rejeté en fait, parce que le dossier est incomplet. Mais ils vont commencer à faire parler d'eux, à faire sortir leur nom Arctic dans la presse, parce qu'il y a une grosse propagande derrière. En utilisant le mot pomme arctique, le but c'était que le génétiquement modifié apparaisse pas, hein, parce qu'il y en a qui expliquent, notamment Neil Carter de cette entreprise qui est au départ canadienne et qui a été rachetée ensuite par un groupe américain, c'est que c'est mal vu, hein, quand même pour les clients que ce soit génétiquement modifié, donc ils lui trouvent un nom sympa. Arctique, c'est un peu sympa. Donc là c'est rejeté. En 2010, hop, rebelote, Okanagan revient et refait une demande en 2012. Donc là, cette fois, le ministère de l'Agriculture états-unien considère que la demande est complète, donc il lance la procédure de début d'homologation de l'OGM. Alors c'est un peu compliqué, donc il lance d'abord une consultation publique pour, je cite, « aider ». L'AFIS, c'est-à-dire l'Institut américain de la bouffe, a identifié de potentiels problèmes environnementaux et les questions économiques liées à ces problèmes environnementaux qui pourraient apparaître. Donc c'est une consultation publique là qui s'est déroulée de juillet à septembre 2012. Il y a eu 1935 interventions, réponses, questions. Donc là, il y avait une préévaluation environnementale. Ensuite, bon, l'AFIS, l'autorisation, donc le ministère états-unien de l'agriculture, décide que ça valide et il passe à la deuxième étape. Bon, ça se fait comme ça, d'étape en étape, avec des pressions indirectes de la part de l'entreprise. Il crée un site internet, par exemple, non pas pour informer, mais pour inciter les gens qui seraient pour cette pomme à aller dans les consultations publiques. Comme on peut faire quand on est militant, on reçoit un mail, il y a une consultation publique sur le nucléaire, allez-y pour donner votre avis. Ils ont fait pareil, c'est de bonne guerre, vous allez me dire. C'est une entreprise qui le fait, c'est pas un truc de citoyen, c'est quand même beaucoup plus moche. Donc ils ont fait ça. Alors l'objectif là, de cette deuxième étape, c'est d'être sûr que cette pomme, c'est une pomme. Parce que quand on modifie quelque chose qui existe dans la nature, on modifie génétiquement, il faut que le produit reste de la même espèce, hein, que ça reste une pomme. Et notamment que ça soit pas considéré comme un parasite, puisque c'est une des conditions d'acceptation par l'autorité américaine. Ils font tout le truc, ça se met en œuvre. Se met en œuvre aussi, en parallèle de ces consultations publiques, une petite mobilisation aux États-Unis, notamment de producteurs de pommes, hein, qui sont contre cette pomme-là. Je ne sais pas exactement pour quelle raison, mais il y a une grosse mobilisation de, par exemple, du Conseil horticole du Nord-Ouest des Américains, de l'État de Washington, des agriculteurs, des pomiculteurs, on va dire. Producteurs de fruits de la Colombie-Britannique. Enfin, grosso modo, 60% des producteurs américains de la pomme se disent qu'ils sont contre l'arrivée de cette pomme. Bon, mais on a appris cette semaine que ça a servi à rien, puisque ces deux pommes génétiquement modifiées, donc cisgénétiques, ont été autorisées, elles vont sortir aux États-Unis d'Amérique sous le nom de Arctic Granny et Arctic Golden. Alors, vous imaginez, le Golden, c'est quand même la pomme qui a le moins de goût du monde, qui est déjà plutôt... voilà, la Granny, c'est pas bien mieux. Elles seront Arctic maintenant, donc vous voulez... En fait, je me demande si c'est encore de la pomme et pas du pétrole, une imitation qu'ils vendent. Hein. Ils pourront les couper, et pendant des années, des millions d'années, elles vont rester blanches. Alors, peut-être pas autant que ça, parce que ça pourrit. Mais bon, bref, ils les passeront sous le radioactif, là, puis comme ça, ça bougera plus après. Enfin, c'est un gros travers, hein, qui est, enfin, c'est habituel des États-Unis d'Amérique sur l'agriculture. C'est quand même une bonne nouvelle. Alors, une mauvaise nouvelle. On peut dire que face à ça, certaines multinationales du snack, parce qu'ils ont des clients un peu partout dans le monde, et notamment en Europe, ont dit tout de suite qu'ils n'utiliseraient pas cette pomme. Et c'est le cas de McDonald's. Alors, c'est pas qu'aux États-Unis ils ont quelque chose à faire. Je suis pas sûr qu'ils vendent des pommes dans les snacks McDonald's, alors qu'on sait qu'en Europe ils le font. Et donc ils se protègent, hein, en disant non, mais nous on n'en prendra pas, on prendra des pommes peut-être locales, tout ça. Il y a quand même une certaine peur. Ce qu'on rappelle aussi, c'est qu'aux États-Unis d'Amérique, il n'y a pas d'étiquetage sur les OGM. Donc les consommateurs, ils ont intérêt à savoir que quand ils ont Arctic écrit dessus, c'est un truc génétiquement modifié. C'est le problème d'information de la bouffe aux États-Unis d'Amérique. Donc voilà, un nouvel OGM. Alors, il n'y a pas de pommes encore, hein, parce que je vous explique. Là, ça vient d'être autorisé. Donc, ils sont pas producteurs de pommes, hein, l'entreprise. Ils ont fabriqué la pomme. Donc après, ils vont vendre les greffes de pommiers qui vont être greffés donc sur d'autres arbres. Je ne réexplique pas comment marchent les fruits modernes qu'on greffe sur d'autres arbres, parce que ça, sinon ça marche pas bien. Et donc il faudra encore quelques années le temps que les arbres poussent et fassent leurs premières pommes. Je ne sais pas combien de temps ça prend, peut-être 5 ou 10 ans au moins, avant que les premières pommes génétiquement modifiées arrivent sur le marché américain. Mais c'est une grande victoire de Monsanto et de leurs amis. Alors même si c'est pas Monsanto qui est en jeu, c'est tout le groupe des organismes génétiquement modifiés qui célèbrent cette victoire. Et nous, non.
Vous vous souvenez de cette chanson de Renaud ? Nucléaire !
Non, mais personne ne la connaît. C'était sur une compile.
Voilà. Mais je suis sûr
Greenpeace
qu'il y en a.
Et...
Nous avons des auditeurs et des auditrices anti-nucléaires, très nombreux. Et je suis sûr qu'ils connaissent et qu'elles connaissent cette chanson très mauvaise, mais c'était pour ouvrir notre page nucléaire.
Oui, c'était une chanson mauvaise, mais pour une bonne cause.
Tout à fait. Ah bah, on peut pas toujours avoir des réussites hein, pour la bonne cause. Oh, ça serait trop facile, écoute.
Non, puis pour le coup, le chanteur Renaud, je pense que depuis 15 ans, ouais. On peut pas dire qu'il soit sur une... non, bon, bref.
Voilà.
Il a le passé derrière lui. Ça
mais je trouve que voilà, bon. Cette idée va bien, parce que, bon, on va vous raconter des trucs super pourris sur le nucléaire, un peu comme d'hab. Hein,
bah, c'est toujours un peu pourri, le nucléaire.
Ouais, un peu toujours, hein, voilà. Alors, on part sur l'EPR de Flamanville, chantier, ouais. Tout ça. Alors, ça évoque quoi pour vous? Des retards un peu?
À tout. Le béton refait 2-3 fois. C'est-à-dire que je crois que c'est Buy hein, qui fabrique. Ils ne savent même plus coller du béton correctement. Des malfaçons partout.
Des surcoûts.
5 milliards hein, quasiment de surcoûts. Un truc de dingue. Moi, quand je regarde ça, je me dis l'entreprise qui fabrique, qui construit cette centrale qu'on appelle Areva, c'était sa première centrale ou pas? Parce qu'on dirait quand même hein, que c'est vous, quand vous plantez une plante, là, vous plantez vos premiers pots de tomates, vous savez pas faire, ça prend pas, tout ça. Ben, on a l'impression que c'est un peu ça. C'est un peu des amateurs. Sauf qu'en fait, ils en ont construit beaucoup avant. Ça veut dire quoi? Que le projet est mal ficelé, qu'ils vont trop vite, qu'ils maîtrisent plus? Je sais pas si quelqu'un a la réponse, mais en tout cas, ça fait peur.
Alors, il y a 3600 salariés.
Esclaves, presque.
2850 salariés d'entreprises sous-traitantes d'EDF hein, qui travaillent sur ce ouais. chantier. Et là, il y a une nouvelle affaire. Et donc, après les retards, les surcoûts, les problèmes de béton que tu évoquais, voilà donc les affaires sociales et judiciaires. Et donc, c'est une nouvelle affaire qui concerne 460 travailleurs détachés, des travailleurs polonais et roumains, des travailleurs détachés par deux boîtes d'intérim, Elco et Atlanco. Elco, c'est une boîte d'intérim roumaine, Atlanco... C'est une entreprise dont nous allons en parler un peu plus tard. On va l'appeler l'entreprise fantôme un peu. Allez, allons-y. Alors, c'est des ouvriers qui ont travaillé sur le chantier entre juin 2008 et octobre 2012. Et c'est des ouvriers qui auraient dû être déclarés en France et ça n'a pas été le cas. Conséquence, une enquête a été ouverte en 2011. Le procureur de la République de Cherbourg avait annoncé des poursuites en juillet dernier, en juillet 2014. Et donc, ce mardi, Bouygues TP, hein, qui gère donc la partie génie civil du chantier, la société française Welbon, la société donc Atlantco et Elco, sont donc depuis mardi devant la correctionnelle de Cherbourg hein, pour une affaire de travail dissimulé. Alors, Atlantco et Elco sont poursuivis pour travail dissimulé par dissimulation de salariés et d'activités prêts illicites de main-d'œuvre et marchandage. Elco, pour mettre la petite couche de plus, est soupçonné d'employer des salariés étrangers sans papier. Bouygues, avec sa filiale Quill Construction, Welbond, sont poursuivis pour recours au service d'une entreprise pratiquant le travail dissimulé, prêts illicites de main-d'œuvre et marchandage. Alors, le parquet affirme que c'est plusieurs millions d'euros de cotisations qui sont manquants. Pourtant, les peines maximales encourues sont légères. Quand on rapproche, 225 000 euros.
Mmh. Ah oui, c'est pas beaucoup.
Ben voilà. Après, bon, on verra un petit peu comment tout ça se développe. Alors, Bouygues conteste les infractions en expliquant que en 2011, le groupe a rompu son contrat avec Atlantco lors du démarrage de l'enquête. Hein. Pas folle la guêpe. Et puis, il faut dire que Bouygues a quand même reconnu hein, lors de cette deuxième journée de procès des dysfonctionnements dans les contrats avec l'agence d'intérim. Donc, bon, quand même, il commence à dire qu'effectivement, il y a peut-être eu quelques problèmes, mais bon, quand même, eux, ils estiment que, hein, chez Bouygues, que le groupe n'est toujours pas visé par ses poursuites.
Non.
Bah non.
Ils étaient pas au courant, ils ont fermé les yeux quand ils ont embauché les gens. Alors, signé des contrats en fermant les yeux.
Ouais, non, mais en fait, c'est un peu ça, quand même, hein, l'idée. Je vous disais donc qu'il y avait ces sociétés fantômes, excusez-moi, Atlantco, elle est introuvable. Il faut savoir que le procès devait d'abord se tenir en octobre, il avait dû être repoussé puisque ben Atlantco, voilà, il y a toujours un site internet, vous pouvez aller voir. Donc, ce qu'on sait un petit peu, c'est que Atlantco, d'après le parquet, ça serait une filiale d'une boîte qui s'appelle Atlantco Rimsa, qui serait basée en Irlande. À un moment, au cours de l'enquête, des salariés avaient évoqué le fait que le siège serait à Chypre. Il s'avérait qu'en fait, il n'y avait qu'un bureau, hein, un peu comme une adresse, une boîte postale. Voilà, donc à côté de ça, on a Atlantco qui a déjà été condamné il y a un an, en février 2014, par le Conseil des Prud'hommes de Cherbourg. Atlantco a été condamné à verser 6 mois de salaire à 59 ouvriers polonais. Je ne sais pas où ils en sont, à vrai dire, de leur réclamation. Alors derrière, il y a EDF aussi, hein, qui est maître d'œuvre du chantier, qui n'est pas poursuivi dans l'affaire, mais quand même, au cours de cette affaire, le président a tenu à signaler que quand même, a-t-il dit, les ouvriers avaient obtenu des badges d'accès, voilà, qu'ils avaient bien été intégrés aux équipes, et que quand même, peut-être qu'il pourrait y avoir une responsabilité. Et alors c'est là que le responsable de Bouygues TP a expliqué qu'il y avait une pression exercée par EDF sur les entreprises à Flamanville. Tu m'étonnes, avec le retard et les galères qu'ils ont tous, tu m'étonnes que derrière il y a des pressions. Et ben voilà, donc c'est aussi intéressant hein, toute cette affaire, parce que ben on commence à un peu en savoir un peu plus. Alors ça a déjà beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on sent que il y a quand même un peu des choses qui nous échappaient, et là il y a un petit voile qui se lève. Bon, ça touche des travailleurs, hein, c'est pas très très drôle dans cette affaire, mais voilà, c'est quand même l'occasion aussi d'en savoir un petit peu plus sur ce très beau projet, pas loin de chez nous finalement.
Et ben, pour terminer dans ce monde nucléaire, nous allons fêter, comme il se doit, les 4 ans de l'anniversaire de Fukushima Daiichi, puisque la centrale a pété il y a 4 ans et un jour, hein, puisque c'était hier, c'était le 11. Donc nous allons refaire un petit bilan, on le fait ça quand même régulièrement dans cette émission, on suit un peu ce qui se passe là-bas. D'abord, un petit bilan humain et matériel. Humain d'abord, donc 32 millions de personnes au Japon sont touchées par cet accident. En comparaison, l'autre grosse catastrophe, Tchernobyl, ça a touché 10 millions de personnes. Tous les deux accidents, donc nucléaires de Tchernobyl et de Fukushima, ont été classés niveau 7 sur l'échelle internationale, le maximum, des accidents nucléaires. Alors, dans les faits, la catastrophe a obligé 400 000 personnes à être évacuées, c'est-à-dire à perdre leur maison, tout ça. 1700 décès sont liés pour l'instant directement à l'accident nucléaire. Alors c'est pas forcément lié à la radioactivité, même s'ils ont eu le temps de partir, mais lié au stress, à l'épuisement, conditions de vie des déplacés, à plein de c'est multifactoriel, hein, du coup c'est 1700 morts. Mais la radioactivité va jouer son rôle, puisque le risque de cancer va continuer d'augmenter, notamment pour les enfants qui étaient présents au moment de l'accident. Même si, d'après ce que disent les soi-disant les spécialistes, grosso modo, le risque de cancer est pas énormément élevé. Mais c'est toujours quelques personnes en plus hein, qui vont mourir et qui seraient pas morts s'ils n'avaient pas construit cette centrale. Sur les substances libérées, bien que l'accident ait été beaucoup plus important que celui de Fukushima, de Tchernobyl, hein, puisque trois cœurs quatre même sont pétés, alors que Tchernobyl il y en avait qu'un, il y a eu beaucoup moins de radioactivité émise lors de l'accident, 15% de l'équivalent de celle de Tchernobyl. Donc on est bien que l'accident soit plus gros, l'impact reste plus faible. En tant que pourcentage de radioactivité, par contre, quand on regarde le nombre de personnes touchées par cette radioactivité, qui ont été en contact avec cette radioactivité, c'est trois fois plus que Tchernobyl. Enfin, faut dire que Tchernobyl, en Ukraine, il n'y avait pas grand-chose autour. Alors que là, le Japon, c'est quand même une densité de population qui est nettement plus importante que cette région ukrainienne. Donc voilà, on notera que ça continue de se déverser en permanence. Alors si on fait le bilan un peu plus loin maintenant, on va voir la centrale elle-même et ce qui se passe dedans. On a des infos de l'Agence internationale de l'énergie atomique, donc cette AIEA, on vous rappelle, c'est une instance qui a pour but de faire la promotion du nucléaire. Donc ils ont tendance à être pas tout à fait réaliste, enfin réaliste bas, c'est-à-dire réaliste sympathique, on va dire, hein, avec les accidents qui peuvent se passer. Donc eux, ils disent que la situation sur le site s'est améliorée. Je veux dire, elle est partie tellement, c'est la plus grosse catastrophe de l'histoire hein, quand même. Donc heureusement que ça s'améliore un peu. Et ils disent quand même qu'elle est très compliquée. On va quand même dire que c'est pas gagné. Je décide, hein, je n'invente pas. Il y a eu une inspection en fait de la centrale de Fukushima au mi-février. Il y a un peu moins d'un mois. Donc voilà. Alors il y a aussi l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire français, qui allaient voir. Alors eux aussi, ils ont la même conclusion. Un travail considérable a été réalisé avec d'énormes moyens, mais le chantier est colossal et le plus gros reste à faire. Bon, ils sont comme les autres, parce qu'ils défendent le nucléaire. Ça a beaucoup progressé, mais quand même, on est loin du bout. Donc, grosso modo, la décontamination ne fait que progresser, qu'avancer tout doucement. Il y a toujours énormément de travail sur place. Hein. Plus de 6000 ouvriers se relaient en permanence pour travailler sur le site avec, alors donc ils prennent leur dose de radioactivité, après ils sont obligés d'être arrêtés pendant quelques temps, ça tourne, on rappelle qu'il y a eu les scandales avec la mafia qui est intervenue pour des SDF qui ont été embauchés pour prendre des doses, hein, parce que c'est de ça dont il est question, il faut prendre des doses, il n'y a pas de liquidator hein, comme c'était le cas à Tchernobyl, hein, qui ont sauvé une bonne partie de l'Europe, c'est liquidator, mais qui sont morts tout de suite, parce qu'ils ont pris des grosses doses de radioactivité. Là, c'est plus ces 6000 ouvriers qui en prennent plein la gueule, qui en prennent un peu dans la gueule régulièrement. Hein, et qui, ça aura sûrement un impact, malheureusement, sur leur santé dans les 10, 20 ou 30 ans qui viennent. Voilà. Alors la société TEPCO rajoute, explique bien ce qui se passe aujourd'hui. Ils disent bon, ben voilà, la centrale c'est une passoire. Hein, ils injectent chaque jour 350 mètres cubes d'eau pour maintenir les cœurs des réacteurs entre 20 et 50 degrés pour pas que ça repète. Dans les trois réacteurs sur les six qui étaient en fonctionnement et dans un où il y avait les piscines. Mais alors dans les trois, puisque celui qui contenait, qui était à l'arrêt et qui lui aussi, bien que soit à l'arrêt, a eu des gros soucis. Ils ont ça a été évacué. Les deux, c'est la seule partie qui a été pour l'instant évacuée. Alors le gros problème, c'est cette eau qu'ils injectent et qui ressort radioactive. Aujourd'hui, 650 tonnes d'eau radioactive doivent être pompées et traitées tous les jours. Alors c'est ce qui se passe, c'est ce qu'ils essayent de faire. Cette eau, alors quand on traite de la radioactivité, on l'enlève pas. Hein. Ils récupèrent les éléments radioactifs qui sont présents dans l'eau, ils les stockent comme ils peuvent dans certains endroits, et l'eau qui est entre guillemets décontaminée, sauf du tritium, parce que ça on sait pas l'enlever, est réinjectée à nouveau pour continuer le refroidissement. Hein. Donc on fait pas disparaître la radioactivité, puisque malheureusement pour l'instant il n'y a pas de solution magique. Donc le stock actuel à Fukushima, c'est 600 000 tonnes d'eau radioactivité dans des milliers de réservoirs qui sont alignés, une partie sont enterrées, et ils pensent aller au moins jusqu'à 800 000 tonnes d'eau dont ils savent pas quoi faire, qui était contaminée. Même s'ils arrivent, qu'ils commencent à la retraiter, donc à récupérer les éléments, les radionucléides, comme on dit, et à les mettre ailleurs et à s'en servir pour pas trop pomper dans la mer. Mais il y a des rejets dans la mer. Des rejets important qu'ils essayent de stopper, alors avec ces fameuses barrières d'étanchéité. Il y a 900 mètres de construction le long de l'océan pour essayer de stopper les fuites d'eau. Alors ça, ces travaux sont terminés. Il y a un pompage de la nappe phréatique qui est présente pas loin de la centrale, en amont de la centrale. L'eau, elle est pas forcément radioactive, non, encore, pas tellement en tout cas, dans la nappe phréatique, mais le but, c'est justement de la pomper pour qu'elle baisse de niveau et qu'elle, pour pas qu'elle l'aille contaminer, se mettre en contact avec la centrale. Et puis il y a toujours le projet du mur de glace, hein, de glisser dans le sol, d'injecter dans le sol un liquide gélifiant froid avec un réseau de tuyaux pour faire une barrière de froid pour arrêter l'écoulement de l'eau. C'est en cours, des essais vont être réalisés normalement cet été. Grosso modo, ce qu'on voit, c'est que le chantier est loin d'être terminé. L'entreprise TEPCO qui a allé déposer le bilan et qui a été aidée par l'État japonais table sur 20 à 30 ans pour arriver à récupérer le site au mieux si tout se passe bien, notamment dans, alors il y a des étapes rendre le site dans 30 ou 40 ans, on n'est pas sûr qu'ils y arrivent. Enlever les barres de combustible qui sont présentes dans les trois réacteurs qui ont été endommagés, le quatrième, je l'ai dit, qui était une réserve, là. Ça a été évacué. Il se donne jusqu'à 2019 pour essayer de le faire, hein, pour d'enlever les barres de combustible. Ensuite, il reste ce qu'on appelle le corium. Le corium, c'est le magma qui est issu de ce qu'il y avait dans la cuve, donc l'uranium et les nucléides, et la cuve qui a fondu. Ça s'appelle le corium. Tout ça va falloir l'évacuer. Ça, ils savent pas bien, mais c'est parce que ça s'est fondu, ça a coulé, hein, c'était chaud, ça a coulé au fond du bâtiment, et ça contamine d'ailleurs, c'est ça aussi qui contamine les nappes phréatiques, tout ce qui est en dessous. Alors ça, ils prévoient de s'y attaquer 2020-2025, mais grosse problématique, c'est jamais, ça a jamais été fait dans le monde, hein, parce que Tchernobyl, ils ont préféré tout fermer, parce que aujourd'hui, alors c'est aucun être humain pourrait y aller, hein, même avec les meilleures combinaisons du monde, c'est pas possible. Donc il faut fabriquer des robots qui vont aller découper cette cuve, ce magma fondu, pour le mettre en petits morceaux et le ressortir. C'est vrai que les robots, dans la radioactivité, ils peuvent pas rester longtemps parce que tous les composants s'abîment aussi. C'est vraiment un truc qui a jamais été fait dans le monde, et il y en a qui se demandent si c'est possible d'ailleurs de le faire, vous avez qu'à voir. Donc voilà, je pense que la situation ne s'améliore pas tant que ça. bien malgré eux, TEPCO, ils ont du mal à sortir, hein, ils auront du mal à sortir de cette catastrophe. Voilà, 19h52, quelques petites minutes pour faire un petit agenda. Nous allons parler alors de différentes choses. Le quatrième anniversaire, parce qu'il n'y a pas que Fukushima, il y a aussi le quatrième anniversaire de la révolution syrienne qui s'est transformée en guerre civile et en guerre tout court en Syrie. Il y a un nouveau convoi humanitaire qui parle. Vous savez, c'est organisé par Free Syria Lyon. Ils ont organisé pas mal de choses. Ils sont beaucoup mobilisés. Ils ont fait des points de rendez-vous, de points de rencontre dans le centre-ville. Donc là, il y a un nouveau convoi qui part avec du matériel. Il y a des vivres, des vêtements, des médicaments, plein de choses. Ils ont des gros containers qu'ils envoient donc en Syrie. Ça part ce samedi, donc ils partent de l'entrepôt, hein, c'est des gros camions qui c'est ça vont en Velin, et après ils vont se balader dans Lyon et pour terminer place Bellecour pour faire le départ solennel un peu de ce convoi qui va amener du matériel et de l'aide aux Syriens. Donc voilà, c'est le rendez-vous du camion et à 17h place Bellecour. Je vous avais parlé de la dernière fois de la série de rencontres débats à la librairie Terre des Livres, hein, qui est une librairie qui est 86 rue de Marseille, Marseille dans le 7e. Là, il y a une rencontre avec François Guillemot et le Centre d'études postcoloniales de Lyon autour d'un livre qui s'appelle La colonisation des corps, autour de ce qui s'est passé dans la société vietnamienne avant, pendant et après la colonisation, autour du corps en fait, voilà, de ses besoins, de ses droits. Je vous laisserai aller voir de quoi ça parle plus précisément. Ensuite, donc ça c'est samedi 14 à 15h. Et samedi soir, deux choses à présenter. Le premier, à la Plume Noire, donc la librairie anarchiste de la CGA, c'est 8 rue Diderot dans le premier arrondissement, ils projettent le film No. Un excellent film, et en plus c'est un film qui donne la pêche, puisque je vous rappelle le film, c'est une sorte de film documentaire, hein, quand même. C'est ça raconte une histoire vraie. On est au Chili en 1988. Auguste Pinochet, dictateur sanguinaire bien célèbre, face à la pression internationale, consent à organiser un référendum sur sa présidence, et là il y a une mobilisation de militants aidés d'un publicitaire pour essayer de faire gagner le non face à Pinochet, pour lui dire non, on veut plus que tu sois là. Et le film raconte ça, et ils vont gagner. C'est un truc où on sort avec la banane quand même, parce que c'est en 88, mais ils ont gagné, voilà. Donc c'est à la Plume Noire, samedi après-midi, 15h, projection de ce film No. C'était Pablo Larrain qui a fait le film, et je crois qu'il y aura une discussion ensuite avec un camarade de l'association France-Amérique Latine pour parler de tout ça, la dictature notamment de Pinochet. Et puis le soir, plus tard, à la Griffe, à 19h, là ça va être plus léger, moins politique, mais quand même politique, puisque c'est la fête des poètes, le printemps des poètes, et la Griffe s'est associée, a décidé de faire un truc sur la poésie et aussi le côté anard et militant, avec Peau d'être de Vincent, qu'on avait reçu à Canu, qui est très 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 bon, et Paresse et liberté de Lionel Perrin, voilà, histoire de faire de la poésie autour de la guillotière, autour du quartier, autour d'idées qui sont quand même militantes, mais mises en poésie. Donc c'est à la librairie La Griffe, rue Sébastien Griffe, dans le 7e métro Saxe Gambetta, samedi 14 mars à 19h, et le dernier info, plus loin, beaucoup plus loin, ce sera pendant notre Canu Info de la semaine prochaine, on sera le 19 mars à 19h, l'atelier des canulars organise un repas à prix libre pour organiser un camp antinucléaire sur une ZAD en fait, à Bure. Vous savez que c'est là où se construit le premier centre de stockage à long terme des déchets radioactifs en France. Voilà, début de mobilisation, jeudi 19 mars à 19h, à l'atelier des canulars dans le 7e. Je crois qu'on a fini, on a tout dit. Tu voulais terminer par quelque chose ? J'ai beaucoup parlé là.
Eh ben non, très bien. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Canu Info. Sinon, on vous rappelle que c'est lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et que je voulais dire que je voulais saluer l'équipe du Canu Info du lundi. Qui, dans une partie de son équipe, cesse son activité de Canu Info.
Pour les intervenants, il y a quand même Robert Michel, qui a fait 32 ans de Canu Info, quand même. Moi, je dis pas mal. Voilà, il y a eu plus de 1000 Canu Info. Enfin, voilà. Ils ont décidé d'arrêter, c'est quand même triste, quelque part. Mais c'est aussi pour laisser la place à d'autres équipes qui vont venir renforcer ces Canu Info. Ils ont fait une dernière émission ce lundi.
Que vous pouvez réécouter, en évidemment, hein, sur les blogs de Radio Canu en balado-diffusion.
Ah pardon, en balado-diffusion.
Et ben voilà, à la semaine prochaine.
Bye bye.
Ciao. Oh, chiquito, oh, chiquito.